être artiste, c'est un... ça reste quand même un sentiment de liberté tout en étant une obligation. Si je veux être heureux, je suis obligée d'être artiste. Voilà, c'est pas un choix. Je trouve l'avantage d'être artiste, c'est que c'est une sorte de véhicule qui me permet de me balader dans toutes les classes sociales, dans tous les mondes imaginables, très haut, très bas. Donc voilà, c'est aussi un véhicule.
Vous écoutez Cube Rouge, le podcast d'entretien où des plasticiennes contemporaines nous livrent le récit de moments clés de leur parcours de créatrice. Je suis Isabelle de Maison-Rouge. Je suis critique d'art, commissaire d'exposition indépendante, historienne de l'art et autrice. En tant que femme, je m'intéresse aussi à la position des femmes artistes dans l'histoire de l'art et aux questions qu'on ne leur pose pas assez. Comment poursuit-on sa route dans le monde de l'art ? Et réussit-on à montrer son travail et le faire accepter? Comment vit-on de son art? Comment parvient-on à exister en tant que créatrice? La plasticienne avec qui je discute s'appelle Corinne Bornier. Dans l'élaboration de son langage plastique, elle refuse de s'enfermer dans une forme reconnaissable et déploie, au fil du temps, une œuvre qui se construit dans sa singularité. Sa liberté d'artiste est précisément ce qui lui tient à cœur. L'idée prime, vient ensuite le faire et le savoir-faire. Contestant les contraintes, autant techniques qu'esthétiques, elle trouve le médium le plus approprié pour laisser ses obsessions et thématiques se déployer. Post-it, résine, os de poulet, papillon, objets de récupération, cire, fusain, peinture, sculpture, dessin, photographie, vidéo, peu importe la matière, peu importe la manière, elle donne à voir la vie sous un angle décalé. Corinne Bornier utilise donc des os de volaille très petits et prompts à se casser ou se réduire en poussière. Ou bien elle fait couler la cire de cierge qu'elle récolte dans les églises qui se sont consumées en portant des prières intenses et intimes d'inconnus. Elle redonne une nouvelle forme et un tout autre usage à des matériaux insolites. Elle accumule les assiettes et les insectes pour un dernier souper. Elle fait des bulles de toile de Jouy. Elle développe tout un attirail d'objets de séduction féminine, tels la guêpière, la jarretière, la couronne de marnier, l'escarpin, qu'elle détourne, puis fait battre un cœur enchâssé dans un fil barbelé. Corinne Bornier porte un regard amusé et iconoclaste sur les règles sociales et mondaines, fait fi des conventions et vole en éclats les tabous. Alors, nous sommes dans ton atelier. J'aimerais bien que tu nous parles de la façon dont tu travailles. Quel est ton processus créatif?
Donc, moi, je pars souvent plutôt de l'idée. Et à partir de là, je choisis mon médium qui peut être assez vaste. Hein. Ça va de la vidéo au dessin, en passant par la sculpture, des installations, des objets. Souvent, j'aime bien répondre à un thème d'exposition. C'est mon petit côté étudiant, je pense. Faire des recherches, ça me titille. Et sinon, dans mes recherches personnelles, souvent je rebondis à peu près comme tous les artistes, je prends d'une idée à l'autre. J'aime bien m'étaler dans mon travail. J'aime bien aller jusqu'au bout d'une idée.
Est-ce que tu dirais que ça vient de tes origines familiales, ton envie d'être artiste?
Alors ça, c'est intéressant. Ma mère, je sais qu'elle a toujours voulu être peintre. Elle n'a jamais pu. Hein. Maintenant, d'ailleurs, à la retraite, elle se met à peindre. Dans la famille, on est tous plus ou moins artistes. Mon frère est peintre. Mes autres frères et sœurs aussi titillent avec ça. Mes enfants sont artistes. Mais je ne viens pas d'une famille d'artistes. Une famille d'artistes qui en vivait. Ma mère s'est mise à peindre, mais en amateur, il y a 5 ans à 70 ans passés.
Mais elle vous a quand même tous soutenus dans cette orientation.
Elle nous a soutenus, oui.
Et est-ce que tu te souviens, toi, à quel moment tu as eu un déclic qui t'a fait dire « Ah tiens, je voudrais devenir artiste » ou est-ce que ouais. Tu as reconnu « Tiens, je suis artiste »
Oui, donc à part le fait que bon, j'ai toujours dessiné, je me suis toujours amusée avec les couleurs, enfin les coloriages et tout ça, je sais qu'en seconde, il y a un prof d'histoire qui nous a montré les peintures de Braque. Et c'est là où ça c'était le déclenchement. Je me suis dit, ah, on peut faire ça dans ce monde. J'étais quand même à Rochefort, Charente-Maritime, loin de tout. Voilà, j'avais aucun accès à l'art. Donc c'est ces deux peintures de Braque qui ont déclenché.
Elles ont déclenché parce que pour toi c'était une émotion, c'était le sentiment du beau, ou est-ce que
c'était une possibilité.
Ouais.
C'était vraiment une possibilité. C'est quelqu'un avait réussi à vivre, à être connu, et grâce à de la peinture comme ça, qui à l'époque me paraissait très très libre, très très osé, très voilà. C'était vraiment le déclenchement. Moi j'étais dans le monde de pêche et chasse, voilà, un petit monde quoi. Voilà, c'est ce qui a ouvert le champ des possibles.
Et alors dirais-tu que quand on découvre ton travail et qu'on ne sait pas forcément qui en est l'auteur, tu penses que les gens voient immédiatement que c'est le travail d'une femme, et pour quelle raison, ou ça peut être autre chose?
En fait, je fais tellement de choses différentes qu'il n'y a peut-être pas cette uniformité. Par contre, il y a beaucoup de mes pièces qui sont ouvragées, donc peuvent être très dentelées. Donc ça peut peut-être faire penser plus à un travail féminin. Je fais aussi beaucoup d'artefacts féminins. Je sais que j'ai du mal, quand je fais du figuratif, à me représenter le mal, quoi. Donc je suis plus sensible à l'émotion féminine. Non, je pense que je fais un travail féminin. Je suis très soutenue par les femmes, en tout cas, beaucoup plus que par les hommes.
Mm-hmm. Et parmi même les gens qui achètent ton travail, il y a plus de collectionneuses?
Non, c'est quand même des hommes qui achètent, mais dans les propositions d'exposition, dans les articles, dans tout le soutien que je peux avoir, c'est quand même principalement des femmes.
Et alors, est-ce que la question de l'intime est au cœur de ton travail? C'est-à-dire que on a vu beaucoup de femmes qui, dans les années 60, 70, s'exprimaient sur le registre de l'intime. Est-ce que toi, tu penses que tu as poursuivi dans cette voie, ou c'était complètement indifférent et loin de toi?
Non, je ne peux pas dire que ça m'est pas indifférent, parce que des fois, je pars des accidents de la vie pour travailler un sujet ou autre, mais je le fais pas vraiment sur la question de l'intimité. J'ouvre tout de suite un registre plus universel. Par exemple, la guépière, là, qui est en os, qui est une pièce assez connue, s'appelle Amour éternel. C'était suite au divorce, c'est ma guépière de mariage et tout ça. Ça faisait mariage clairosé, mais bon, c'est devenu aussi la guépière de toutes les femmes. Je ne fais pas de journal intime, je ne passe pas mon travail sur ma vie. Mm. Par contre, ça peut être sur des événements nationaux, le World Trade Center, là, j'habitais aux États-Unis à cette époque-là. Oui, là j'en ai parlé, mais pas forcément de façon intime.
Mmh. Oui, c'est-à-dire que quand on regarde ton travail, il y a certaines pièces qui parlent de toi précisément, mais on n'est pas obligé de le savoir, et ça n'entre pas dans la compréhension de l'œuvre.
Non. Mmh. Non, j'ai une certaine pudeur quand même, j'essaye d'être pudique.
Mmh. Mais pour revenir sur un élément qui t'est personnel, tu as quand même des enfants. Est-ce que tu penses que ça t'a freiné dans ta carrière d'artiste? Est-ce qu'il y a eu des injonctions qui sont venues de l'extérieur pour te dire arrête de travailler, occupe-toi de tes enfants ou...
Non, alors j'ai pas eu d'injonction ni familiale, ni... J'étais assez soutenue par mon mari de l'époque d'ailleurs. C'était plutôt une injonction personnelle. Je sais que quand j'étais dans mon atelier, je culpabilisais de ne pas être avec mes enfants. Et quand j'étais avec mes enfants, je culpabilisais de ne pas être avec dans mon atelier. Donc je me suis fait suivre pendant quelques mois par une psychologue qui faisait la psychologie cognitive. Elle m'a beaucoup aidée à résoudre ce problème. Et donc ça, j'ai fait ça à l'âge de 40 ans. Donc je me suis mise après à me libérer. Et je pense que ma première pièce, je l'ai fait à 40 ans. Ma première vraie pièce artistique, et la Tour de Babel, je l'ai fait suite à ce suivi. Donc c'était plutôt une injonction personnelle, une espèce de culpabilité.
Tu te mettais toi-même des barrières.
Voilà, je me mettais beaucoup de barrières. C'est elle qui m'a libérée.
Et tu penses que ces barrières, elles t'étaient imposées par la société sans que toi, tu en prennes conscience?
C'est possible, oui. Ou de penser que j'étais une mauvaise mère. Une mauvaise mère parce que je pensais à mon atelier, ou un mauvais artiste parce que je pensais à mes enfants, quoi. J'arrivais pas à me libérer.
Donc tu dis qu'il a fallu que tu attendes 40 ans. Est-ce que ça a été une souffrance pour toi de te dire je mets un peu ma carrière en attente?
Bon, déjà à l'époque j'avais pas de carrière, donc donc j'étais pas vraiment une carrière en attente. Mais oui, il y avait une espèce de frustration latente, hein, je pense. Oui, il y avait une sorte de frustration, mais je n'arrivais pas à la nommer. Puisque dans les deux cas, je ne me sentais pas à l'aise. C'était une espèce de boulet que je me traînais moi-même. Hein. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Alors, Cognitif, il faut savoir qu'elle m'a donné des trucs très concrets à faire. Une expo à faire, ce que je l'ai fait en anglais, tasks à faire par jour pour me libérer. Donc, c'est pour moi, comme je suis assez terre-à-terre, ça m'a vraiment beaucoup aidé, cette dame. D'ailleurs, j'en ai fait une super pièce qui s'appelle The Cure. Voilà, grâce à elle.
Et donc tu as poursuivi ensuite, parce que donc là tu étais aux États-Unis, et ensuite quand tu es rentrée en France, tu as poursuivi en te disant il faut que je fasse des expositions, il faut que je monte mon travail, enfin c'est comme ça que...
Après moi j'ai un petit parcours, donc il y a eu ce parcours-là qui m'a libérée, aux États-Unis tout se passait bien, après je suis revenue en France suite au World Trade Center, et là j'ai quand même mis 10 ans à ramer parce que j'ai tout laissé là-bas, et puis ici je connaissais personne. Donc ça a été un peu long, c'était même très long. Je me suis remise à travailler après un gros problème de santé, où en allant m'opérer, je me suis dit qu'est-ce que t'as pas fait. Bon, je me suis dit j'ai fait les enfants, je me suis mariée, j'ai dit là ma carrière artistique je l'ai mise un peu de côté. Mais je l'avais mise de côté, mais j'avais plus de culpabilité à l'époque de l'avoir mise de côté. J'étais pas malheureuse pour autant. Et là, ça m'a fait réagir. Ça, c'était il y a 7 ans. Voilà. Mm-hmm. Et après, j'ai foncé.
Voilà.
Ai perdu mon mari, d'ailleurs. C'est peut-être pas à cause de ça, mais je suis devenue moins disponible.
Et tu dirais que dans cette partie-là de ton travail d'artiste, est-ce que tu t'es sentie aidée, épaulée, ou est-ce que tu t'es sentie très seule ?
Non, je me suis... le jour où j'ai commencé à prendre la décision ferme d'essayer tout ce que je pouvais pour être artiste, quoi, être artiste à plein temps, non, j'étais peut-être les deux premières années étaient un peu difficiles parce que je ne connaissais vraiment personne. Hein. J'ai perdu 12 kilos, j'ai mis des talons, je suis allée au vernissage à la rencontre de quelqu'un. Au début, j'ai beaucoup ramé, mais après, quand ça s'est enclenché, oui, j'étais très très soutenue, principalement d'ailleurs par des commissaires femmes ou des journalistes femmes. Je suis très soutenue par tout un. Ou les galeristes femmes, parce que j'ai travaillé avec la galerie Valérie Delaunay. Et aussi. La collectionneuse Claire Durand-Ruel, qui m'ont beaucoup aidée à un moment charnière. Donc oui, principalement par des femmes, étrangement.
Mais c'est intéressant, c'est un parcours qui est peut-être assez fréquent aussi pour les artistes femmes.
Je sais pas. La première personne qui m'a acceptée dans une expo personnelle, c'était à la Galerie La Voûte. C'était mon ami Thomas Jean Mougin. C'était un homme. Voilà. C'est le seul qui m'a vraiment aidée en fait. Bon, maintenant, après, il y en a d'autres qui reviennent, mais franchement, je suis principalement soutenue par des femmes. Et d'ailleurs, invitée dans des expositions souvent organisées par des femmes.
Ouais. D'accord. Et donc, à ce moment-là, peut-être qu'on pourrait revenir sur les thématiques qui t'animent, parce que ça peut peut-être expliquer aussi la raison pour laquelle ce sont les femmes qui te soutiennent plus.
Ouais, je sais pas, je suis pas franchement féministe en plus. Enfin, je le suis, hein, tout comme une bonne femme, mais c'est pas mon cheval de bataille. Je sais pas, là, je travaille sur Le Dernier Souper, donc sans doute qu'il y a une histoire de quotidien dedans, qui doit les toucher. En fait, je sais pas trop pourquoi. Peut-être, je pense que c'est plus par rapport à mon caractère. Je me sens sans doute plus à l'aise avec les femmes.
Et parce que tu fais beaucoup de sculptures avec un médium qui est très très original, qui sont les os.
Ah oui, alors le médium en lui-même n'est pas si original que ça. Beaucoup d'artistes le pratiquent, mais moi par contre, j'utilise vraiment tous les petits os. Et ça, c'est un peu plus rare. Donc c'est pour ça que je ne suis pas copiée encore. Non seulement c'est rare, mais...
C'est minutieux.
C'est minutieux et très long à faire. Donc voilà, oui, ça c'est le fait de tricoter avec, de faire de la dentelle avec, un peu plus compliqué. Je nettoie vraiment tous les petits os et de la caille. J'ai quelques os d'autruche, donc quelques os d'autruche, c'est un peu gros. Voilà. Donc je, oui, et avec ça, je fais des artefacts, des guépières,
des chaussures.
Voilà, parce que je travaille quand même sur la notion, sur notre condition humaine et sur la notion, il y a une notion de temporalité, de seconde chance. Donc là, je fais des couronnes, des objets de beauté, et je fais des vanity shoes là, pour montrer que quoi qu'il arrive, de toute manière, voilà, on connaît la fin. Donc il n'y a rien qui nous protège. Donc je travaille un peu ça sur le manque de protection.
Quand tu as fait tes études, ensuite tu t'es mis à découvrir toute l'histoire de l'art. Et parce que dans ton travail, tu dialogues aussi pas mal avec des œuvres.
Oui, 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 ça, j'aime bien ça, faire des petits clins d'œil, des références. J'aime bien assez les références populaires. J'essaie d'être assez simple en fait, comme première approche. J'adore l'art conceptuel. Je sais que j'aime bien avoir une approche assez frontale, une approche visuelle frontale. Après, on peut s'y perdre, on peut piocher. Donc oui, c'est vrai, je prends beaucoup les icônes un peu populaires ou les références artistiques.
Parce que la thématique de la vanité, par exemple, revient assez souvent dans
ton
approche.
Comme je travaille sur la condition humaine,
ben voilà.
Que la fin est certaine, donc oui, ça revient souvent. Ouais. Je flirte avec ça beaucoup, oui. Oui, c'est tout ce que je fais d'ailleurs, c'est des vanités. Hein. Mon dernier souper, c'est des vanités. Là, je suis en train de faire des tables fossilisées, c'est des vanités. Oui, je travaille beaucoup sur la vanité. Mm. Peut-être un lien avec mon histoire personnelle, j'ai perdu beaucoup de gens proches, jeunes. Mm. Donc j'ai su très tôt que
la vie pouvait s'arrêter.
Que la vie pouvait s'arrêter, que c'était inévitable. Et donc le fait, quand je dis que je travaille sur le manque de protection, je suis assez iconoclaste, je me balade avec la richesse, la bourgeoisie, donc voilà. Mm. Je sais que rien ne me protège de l'inévitable. Donc je me balade là-dedans. Et donc c'est pour ça que j'ai pris le grand sujet, moi, dans lequel je peux faire plein de sujets et utiliser plein de médiums.
Et quel serait ton rêve d'exposition si quelqu'un te dit... Voilà,
Maubuisson.
À Maubuisson, l'abbaye de Maubuisson. Et là, tu sais déjà ce que tu ferais, tu occuperais l'espace.
Maubuisson, j'y suis allée il y a 3-4 ans, j'ai vu l'exposition de Neuf, et un très très bon artiste. J'ai vu le lieu, et je l'ai vu l'expo tout de suite. Alors, je ne dois pas être la seule, hein, parce que c'est quand même un endroit magique. Mais ça m'a fait le même effet que quand j'ai vu mon atelier, dans lequel je suis aujourd'hui. Et je l'ai vu, et je me suis dit, cet atelier est pour moi. Et j'ai fini par l'avoir d'ailleurs, après des méandres administratifs, j'ai fini par l'avoir, voilà, Maubuisson.
Et quelles sont tes recherches actuelles? Là, tu parlais de table.
Oui, là, pour l'instant, je suis en train de travailler sur... Donc, j'ai fait toute une série sur le dernier souper, où les déchets revivaient sous forme d'insectes et tout ça, ce que j'avais présenté au château du Rivaux, là, dernièrement, un grand dernier buffet avec 13 couverts. Et là, je le divise, je fais des petites tables de restaurant. Là, je travaille sur la chaise aussi, la table, la nappe. Et j'aimerais faire un restaurant comme ça, un peu fossilisé, où il y aurait aussi des os, où il y aurait peut-être des nappes, des motifs sur les nappes, un peu usés comme dans les fresques. Et je voudrais mettre des vidéos dans les assiettes. Donc je voudrais faire une dizaine de tables. Et je travaille aussi sur la fresque. En ce moment, toujours sur ma Gesmonite, hein, avec toujours mon médium préféré, là, quand même. Et donc, je voudrais faire une espèce de... comme Pompéi, peut-être un peu... Une espèce de restaurant actuel fossilisé. Du Covid, enfin, voilà.
Elle serait de quelle taille et de quelle dimension?
Les tables, c'est des vraies tables de...
Ah oui, donc...
C'est vraiment des petites tables de restaurant, quoi. J'appelle ça... C'est les chaises, c'est des vraies chaises, mais tout sera usé, Gesmonite... Un peu fossilisé, quoi, un peu à l'arrêt, enfin carrément à l'arrêt, un peu usé, mais tout en étant bien vivant, parce qu'il y aura quand même cette présence d'insectes, d'os, de déchets qui revivent, des vidéos qui bougent, enfin comme d'hab, quoi, comme d'habitude.
Est-ce que c'est un rapport aussi avec la période de confinement dans lequel
on a été... Oui, c'est une espèce de monde à l'arrêt, quoi.
Voilà,
ouais, c'est ça.
Et pour finir notre entretien... Il y a certainement une œuvre qui t'a marqué à un moment donné et qui a déclenché. Tu as parlé tout à l'heure de Georges Braque, mais il y a aussi peut-être d'autres œuvres qui ont jalonné ta réflexion et qui t'ont marqué particulièrement.
Oui, donc il y en a quand même plusieurs. Hein. Moi, par exemple, j'aime beaucoup Le culot de Paul McCarthy. Je sais pas si j'aime ses pièces, mais j'aimerais avoir son culot. Ça, je l'ai pas, je pense qu'on se censure trop. Et il y a une pièce qui me bouleverse à chaque fois que je la vois, enfin je l'ai vue deux fois, c'est celle de Robert Gobert, la Madonna. Cette grande Madone percée d'un tuyau, c'est sur une bouche d'égout, voilà. Qui soit un peu iconoclaste, je trouve cette pièce absolument fantastique.
Et merci beaucoup.
Cube Rouge est un podcast diffusé sur Art District Radio, sur une proposition d'Isabelle de Maison Rouge, le mercredi et le samedi à 14h, la semaine de la sortie de l'épisode. Retrouvez tous les épisodes de Cube Rouge en podcast sur le site internet de la radio et sur toutes les plateformes d'écoute en suivant le fil des podcasts d'Art District Radio.